Merci Guillaume. Je vais essayer de m'octroyer les 10 minutes que tu viens d'allouer. Donc au début, on a commencé cette prospective en disant de quoi parlons-nous. Et on a fait exactement ce qui a été dit ce matin, c'est-à-dire qu'on est parti sur des approches statistiques, quantitatives, etc. Et puis à un moment donné, il y a eu un gros conflit dans le groupe de la prospective et entre ceux qui voulaient effectivement ne faire que des approches quantitatives et ceux qui commençaient à dire « mais attendez, c'est pas ça qui est important, ce qui est important, c'est le vécu ». Et donc finalement, c'est bien ceux-là qui ont fini par gagner, ceux qui sont porteurs du vécu, ceux qui sont porteurs de la déclinaison des relations fonctionnelles entre la ville et la campagne. Et je dois avouer, malgré le fait que l'on ait quelques équipes qui travaillent sur les approches quantitatives, qu'on a essentiellement axé le travail sur le vécu, ce qui est en parfaite harmonie, je trouve, avec beaucoup de choses qui ont été dites ce matin. La deuxième chose qu'on s'est dit, bon, mais quels sont les moteurs sur la ruralité? Donc on s'est mis une équation simple et nous avons considéré qu'il y aurait quatre moteurs. On s'est dit, le premier moteur, c'est celui de la mobilité. La mobilité, elle peut être contrainte ou elle peut être volontaire. Deuxièmement, la mobilité dépend du prix de l'énergie. Et troisièmement, donc l'essence, hein, et troisièmement, la mobilité dépend des politiques de transport. Le deuxième moteur que l'on a considéré, c'est que le fait qu'un territoire, ça ne tombe jamais du ciel, ça a une histoire, c'est ancré dans une histoire. Et donc, les précédents du territoire, en matière notamment de localisation des activités industrielles et agricoles, sont déterminants de son futur. Un territoire ne définit pas son futur sans considérer, de fait, implicitement ou explicitement, son histoire. Et donc, la localisation est importante, et du coup, la question dont on s'est particulièrement préoccupé, notamment pour l'agriculture, c'est l'adaptation de l'agriculture en fonction de ces scénarios-là. Localisation, adaptation, ce qui rejoint une remarque très importante qui a été dite deux fois dans la matinée, qui est de dire qu'aujourd'hui le consommateur est préoccupé par les produits, mais que demain il sera de plus en plus soucieux des modes de production des produits qu'il consomme. Et donc ça nous a effectivement interpellés sur les modes de production. Le troisième moteur que l'on a considéré, c'est qu'aujourd'hui le citoyen, chaque citoyen, à différents moments de sa vie, élaborer des liens à la nature qui étaient différents. Et d'autre part, il y a des différences de sensibilité à la nature selon les citoyens. Autrement dit, on a considéré que le lien à la nature allait être un des moteurs majeurs de l'évolution des territoires. Bien sûr, la nature va être confrontée à des enjeux globaux, changement climatique, la sensibilité à la biodiversité, etc. On pourra en parler plus si vous le souhaitez. Mais également, on voit qu'il y a des politiques publiques ou des politiques locales en matière de définition de patrimoine, en matière de territoire dédié. On voit qu'il y a des sensibilités croissantes au paysage. Et du coup, on voit aussi qu'il y a des conflits. En particulier, on avait dans l'équipe prospective, donc des gens spécialistes de la ruralité, mais on avait aussi une équipe qui en fait est une spécialiste des conflits. Donc c'est une équipe de recherche qui travaille sur les archives des tribunaux et qui analyse tous les conflits et qui essaye de trouver, d'une part, comment émergent ces conflits, deuxièmement, comment s'organisent les citoyens qui sont confrontés à ces conflits, et troisièmement, que disent les juridictions par rapport à ça. Et puis le dernier point que l'on a considéré comme moteur de l'avenir des territoires a amplement été évoqué ce matin à plusieurs reprises, c'est bien évidemment celui de la gouvernance du territoire. C'est une évidence que de constater qu'il y a des différenciations de stratégie entre territoires, mais c'est aussi une évidence de considérer qu'il y a une multiplicité des acteurs institutionnels et politiques, ça a été évoqué ce matin, mais qu'il y a aussi une montée en puissance de plus en plus influente, et pas seulement en Italie, aussi en France, du monde associatif. Et ça impacte très fortement l'organisation des citoyens sur un territoire, impacte fortement son avenir. Et enfin, bien évidemment, on s'est interrogé par rapport à ce problème-là sur le rôle de régulation de l'État. Ceci nous a conduit donc à élaborer quatre scénarios que je vais évoquer et ensuite j'essaierai de tirer les conséquences que l'on a vues, notamment pour l'agriculture. Donc les scénarios, je vais les présenter très brièvement. Le premier, il est très simple, c'est celui où la ville s'étale. Voilà. Alors, pour travailler là-dessus, comme je vous ai dit qu'on était parti du vécu, on a essayé de regarder quelle est une des régions qui était symptomatique de ce schéma-là. Eh bien, on a trouvé la région de Toulouse. Donc, regardez les cartes. Vous prenez la carte de Toulouse dans les années 80 et vous prenez la carte de Toulouse aujourd'hui. C'est très simple. Dans les années 80, Toulouse, ça irradiait sur à peu près 30-40 km, sauf la vallée qui va sur Carcassonne. Et puis aujourd'hui, la même carte, je l'ai là, je pourrais vous la montrer, c'est la même carte, c'est 130 km. Voilà. Et donc, c'est à nos yeux une politique d'étalement de la ville qui, du coup, repousse à l'infini l'agriculture. Et du coup, c'est aussi, nous, on l'a perçu comme ça, comme une faiblesse des politiques publiques, puisque personne, à aucun moment, n'a su enrayer ce processus. Et comme ça a été dit ce matin, on en voit l'efficacité, mais on en voit aussi la fragilité, puisque tout ça est dû, comme ça a été dit, à une externalité qui est EADS. Le deuxième scénario que l'on a évoqué, c'est celui où l'on est tantôt à la ville, tantôt à la campagne. Et ce tantôt à la ville, tantôt à la campagne, on peut le comprendre de deux manières. Dans beaucoup de couples agricoles, il y a deux emplois. Un membre du couple travaille à la ferme, l'autre membre travaille à la ville. Mais il y a aussi, tantôt à la ville, tantôt à la campagne, nombreux, je suis sûr, ici, dans cet amphi, ont une maison secondaire, et ils sont tantôt à Paris, tantôt en Normandie, ou je ne sais où, c'est-à-dire que le développement de l'habitat secondaire crée une économie résidentielle forte qui fait que ça bouge. Alors évidemment, là, ça dit bien ce que je vous disais tout à l'heure. Les premiers, celui qui habite en campagne et qui doit aller bosser en ville, il est contraint. Il faut qu'il y aille. Ou vice-versa, s'il habite à la ville et qu'il doit aller à la campagne pour entretenir sa ferme. Mais le retraité qui habite en ville et qui veut aller dans sa maison secondaire, il faut qu'il ait envie. Pour qu'il ait envie, il faut que la campagne soit attirante. Donc il faut que le territoire rural qui va l'accueillir soit un territoire qui réponde à ses besoins. Par exemple, c'est une évidence, c'est un truisme, mais par exemple, la politique de, comment on appelle ça, de haute technologie, les TIC, la DSL, par exemple, des choses comme ça, c'est des choses qui sont importantes. Je suis sûr que vous êtes nombreux ici à vouloir aller dans votre campagne et vous aimez avoir Internet. Il faut que le village puisse vous délivrer Internet. Et le troisième scénario, c'est celui où la ville n'a plus la place de s'étaler. Et donc, elle est contrainte de s'ériger. Et la ville part en hauteur. Ne vous trompez pas, ce n'est pas forcément un catastrophisme, ce n'est pas forcément une utopie, et ce n'est pas forcément irréel. Regardez la Hollande, regardez l'Asie, regardez la Chine, le Sud notamment, et puis regardez certaines régions de France. Et donc, du coup, si vous poussez à l'extrême le fait que la ville parte en hauteur, eh bien, vous êtes confronté au fait de faire rentrer l'agriculture dans la ville. Et le dernier scénario, eh bien, c'est finalement la peau de léopard. On l'appelle comme ça, enfin, moi je l'appelle comme ça. Mais en fait, eh bien, là, ça veut dire que chacun d'entre nous, on aimerait bien, alors, enfin, je biaise en disant ça, beaucoup aimeraient bien finalement être dans un petit village à côté d'une ville de taille moyenne dans laquelle il y ait un pôle de santé publique, hôpital ou clinique, un lycée, un complexe sportif, un grand magasin, un complexe de cinéma et puis un parc récréatif. Et en fait, tout le déterminant de la politique publique, c'est le X kilomètre, il vaut quoi ? Il vaut 40 km, il vaut 50 km, il en vaut 100, il en vaut 120, et vous voyez bien que c'est le rôle de gouvernance de ces politiques publiques qui vont déterminer cette valeur. Voilà, je ne vais pas aller tellement plus loin parce que je n'ai pas beaucoup de temps, donc j'en tire les conséquences pour l'agriculture, au moins celles qu'on en a aperçues. La première, notamment sur le scénario 1, c'est le prix du foncier. Chacun d'entre nous, et les agriculteurs les premiers, sont en contradiction. Tout agriculteur qui est jeune veut garder les terres pour produire. Le même agriculteur, s'il n'a pas de fils ou pas d'héritier, dès que, comme moi, il devient chenu, commence à essayer de s'intéresser à transformer certaines de ses terres en terres habitables, constructibles. Et donc, vous voyez que, et c'est pas, j'accuse pas les agriculteurs en disant ça, tout le monde est confronté à ce problème, et le problème du foncier est un réel problème. L'agriculture périurbaine est également un vrai problème qui est posé par ce genre de choses. Et le dernier point, c'est qu'on voit bien que dans le scénario 1, on pourrait imaginer une agriculture périurbaine très contrainte par les attentes de citoyens en matière de sécurité environnementale et de sécurité publique. Puis deuxièmement, une agriculture beaucoup plus éloignée des villes, qui, elle, serait beaucoup plus libérée de ces contraintes et qui pourrait tourner donc sur des critères de productivité essentiellement agronomique. Le deuxième scénario, il nous amène à nous interroger sur le maintien du patrimoine paysager. Et dites-vous bien que l'on n'arrivera pas à rénover l'agriculture aujourd'hui sans prendre en compte la dimension paysagère qui va devenir clé de toutes les solutions. Je ne vous dis pas que c'est la solution, je vous dis que ça sera une clé de toutes les solutions. Vous ne pourrez pas traiter le problème des agricultures si on ne prend pas en considération les paysages. Et donc, par rapport à ça, pourquoi ? Parce qu'on sait qu'il faudra que l'agriculture ait un double défi. L'intensification doit rester sur le plan agronomique. L'agriculture doit produire et le fait de penser que son extensification est une solution aux effets délétères qu'elle a sur l'environnement est une erreur. Mais la deuxième chose, c'est que l'agriculture doit aussi devenir intensive, écologiquement intensive. Donc elle doit être agronomiquement intensive et écologiquement intensive, c'est-à-dire qu'il faut rénover, revisiter les pratiques actuelles pour un meilleur respect de l'environnement. Et en fait, ceci va sur le troisième scénario, l'agriculture entre dans la ville. Alors vous allez dire, mais ça existe longtemps. Mais je vais vous dire une chose simple. Si on a beaucoup de problèmes de virus aujourd'hui, c'est dans beaucoup d'endroits. Alors ce n'est pas le cas de ce fameux H1N1 qui n'a jamais tué un porc, hein, mais qui n'a rien de porcine. Mais reprenez l'Asie. La plupart des grippes auxquelles nous sommes confrontés sont des grippes d'origine aviaire, et c'est tout simplement dû au fait que les virus qui attaquent la volaille peuvent aussi attaquer l'homme s'ils subissent quelques mutations. Et lorsque vous, c'est pas parce que vous avez des élevages au milieu des villes que vous augmentez la mutation, mais vous avez la même fréquence de mutation, sauf que la probabilité de contact est beaucoup plus forte puisque vous avez une forte densité d'oiseaux et une forte densité d'hommes. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes. Et vous voyez bien que si vous voulez avoir un système comme ça durable, eh bien il va falloir être techniquement très très fort. Autrement dit, le fait de faire entrer l'agriculture dans la ville, ça oblige à une agriculture techniquement intensive et propre. Enfin, le dernier scénario, lui, il nous amène à... Autant le troisième scénario nous amène à un zonage des espaces au sein de la ville, entre ceux dédiés à l'agriculture, au transport, à la santé, etc., à l'habitat. Et le quatrième scénario, lui, nous amène, puisque vous voyez que ça veut dire que tous les 40 km, ben, la région de Normandie, voilà, l'exemple type de ce scénario 4, c'est la Normandie, ben, vous avez nécessité d'un maillage et d'un enchevêtrement très, très fort. Alors, en conclusion, vous l'avez compris, le premier point, c'est qu'il n'y aura pas dans une région un seul de ces scénarios, et puis vous êtes suffisamment confronté à la prospective pour savoir aussi que les scénarios, ça guide la pensée, mais qu'aucun de ces scénarios sûrement ne se réalisera, et que ce sera un mélange de ça, mais ça construit la pensée. Et il n'y aura pas de territoire dédié à l'un ou à l'autre. Tout ça va se mélanger. Le deuxième point, c'est qu'il ressortait très fortement, justement parce qu'on avait analysé les vécus, que la gouvernance du territoire sera essentielle dans sa capacité à réagir. Et quand on dit gouvernance, on ne dit pas seulement la gouvernance par les institutions politiques, on dit la gouvernance aussi par les citoyens. Donc c'est les deux qui vont devoir. C'est pour ça que le débat qu'il y a eu ce matin sur l'Italie, tout ça, était très intéressant. Il illustrait parfaitement ce que je veux dire. Et le troisième point de ma conclusion, et ce sera le dernier, c'est les conséquences pour l'agronomie. Et donc pour nous, nous considérons que ça veut dire que l'agronomie doit être profondément revisitée, en particulier par une appropriation résolue des concepts de l'écologie, parce que l'agriculture doit garantir une production doublement intensive, je l'ai dit. Deuxièmement, parce qu'il faut inventer une agriculture des systèmes écosystémiques. Il faut inventer l'agronomie des services écosystémiques. Ça va être une des clés de promotion de l'agriculture. Enfin, il va falloir concevoir l'agronomie des espaces. Vous savez que la majorité des agronomes travaillent à la parcelle, travaillent au champ, un peu à l'exploitation. Puis dès que ça se synthétise, ça devient de plus en plus compliqué. Et ça devient d'autant plus compliqué que jusqu'ici, le sujet était les terres agricoles et les objets éventuellement impactés étaient les territoires environnants, la forêt, les prairies, les zones délaissées. Aujourd'hui, il faut que tout ça devienne des sujets de recherche et non plus des objets. Et le dernier point, et je conclurai là-dessus, c'est qu'il faut améliorer l'ergonomie, sensu lato, l'ergonomie de l'agronomie, tout simplement parce que le métier d'agriculteur devient de moins en moins attractif. Si on ne trouve pas le moyen, avec toutes ces contraintes, de les présenter de telle façon que des jeunes aient envie de le faire, bientôt on parlera de pièces de musée.
Merci.